Europe 1.
Le Club Tour.
Axel May.
Bonsoir, un jeune coureur espagnol qui s'impose à Morzine, la première étape alpestre de ce Tour de France 2023, marquée par une chute massive du peloton, marquée aussi par l'abandon de Romain Bardet. Et bien cette étape tracée en Haute-Savoie a été remportée par Carlos Rodriguez, 22 ans. Richard Virenque, notre consultant sur Europe 1, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Rodriguez qui devance le maillot jaune et le maillot blanc. Le maillot jaune, c'est Vingegaard. Le maillot blanc, c'est Pogacar. Ils se sont neutralisés. Et je vous propose, Richard, avant de nous faire réagir, de revivre grâce à Radio Tour la fin de cette 14e étape. Alors, étape partie d'Annemasse. 5 cols répertoriés, dont le dernier terrible, hein, la montée hors catégorie de Jouplan avant la longue descente vers Morzine. Vingegaard et Pogacar ont fait le ménage dans cette montée de Jouplan. Ils ne sont plus que deux. À 4,5 km du sommet, le Slovène attaque. La suite, c'est sur Radio Tour.
Pogacar s'en va, Vingegaard est distancé. Vingegaard distancé, Pogacar parvient à distancer le maillot jaune, Vingegaard. 5 secondes entre Pogacar et Vingegaard. Vingegaard revient sur Pogacar. Pogacar, jaune et le maillot blanc sont ensemble. Ils sont ensemble à nouveau. Alors que Rodriguez est pointé à 50 secondes maintenant. Vingegaard, attaque de Vingegaard à l'approche du sprint bonus. Il y a un sprint bonus au sommet, je vous le rappelle. Le Jouplan passe en tête, le 1, Vingegaard. 8 secondes de bonification. Deuxième place pour le 11, Pogacar. 5 secondes de bonification.
Et les deux hommes de tête sont à 10 km de l'arrivée.
Rodriguez est en train de revenir sur le duo. Il a pris quelques longueurs d'avance sur le duo.
C'est à 3 km de l'arrivée.
Victoire de Carlos Rodriguez. Deuxième position pour Pogacar. Troisième place pour Vingegaard.
Richard Virenque, je vais vous faire réagir. On accueille aussi Emmanuel Potiron de Cyclisme Actu. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir messieurs, vous m'entendez bien ?
On vous entend parfaitement. Parfaitement. D'accord. Je précise que Richard et
vous connaissez
bien. Richard, déjà, qu'est-ce que vous avez retenu de cette étape ? Le fait que Rodriguez, l'Espagnol, a 50 secondes de retard dans la montée de Jouplan et finalement, il s'impose, ou vous avez plutôt retenu le fait que Vingegaard et Pogacar se sont neutralisés ?
Je retiens que l'étape a été très dure pour tout le monde, qu'il y a eu une course d'enfer tout le temps avec plein de choses qui se sont passées, comme vous l'avez évoqué, des chutes, des abandons, beaucoup d'abandons, 5 ou 6 abandons, notamment Romain Bardet, et que les cadors se sont vraiment attaqués dans la dernière ascension qui est Jouplan, qui est un col très difficile. Et qu'à un moment donné, c'est clair que Pogacar a vraiment tenté. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas vraiment le faire plier, il a dû se relever. Et après, il y a eu un round d'observation qui ont permis à certains coureurs qui étaient distancés, vous imaginez, à une minute, de revenir. Et voilà, donc ça, la victoire d'étape, on va dire, elle a été bénéfique parce que les deux grands favoris de ce tour se sont neutralisés, mais ils se sont bien attaqués. Et Vingegaard, à un moment donné, a fait le classement de la montagne avec les bonifications au sommet devant Pogacar. Non, je trouve que c'est pas mal d'enseignement. La Jumbo a fait la grosse étape parce qu'elle a durci l'étape, elle a fait sauter tout le monde. Et cette étape-là va laisser beaucoup de traces pour l'étape de demain.
Oui, merci Richard Virenque. Emmanuel Potiron, Cyclisme Actu. Richard le disait à l'instant, il y a eu un gros tempo de l'équipe néerlandaise de Vingegaard, la Jumbo. Hein, il n'y a pas eu de bonne sortie pour l'échappée qui a essayé de se former aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas tout ça pour ça ? Parce que résultat, Vingegaard et Pogacar, ils sont au même niveau ce soir qu'ils l'étaient hier.
Écoutez, je suis d'accord avec Richard déjà. On a été au bus ce soir, je suis allé voir Franz Massen, le directeur sportif de Jumbo-Visma. Il nous a dit une phrase, on voulait montrer que l'équipe Jumbo-Visma était une équipe forte et voulait gagner le Tour. Ils ont fait un énorme tempo en empêchant l'échappée de prendre trop de large, etc. Ils ont montré qu'ils pouvaient contrer Tadej Pogacar. Et aujourd'hui, au final, Franz Massen nous a dit, on a 10 secondes, on a gagné une seconde. Donc Tadej Pogacar a peut-être essayé, mais derrière, il a perdu une seconde.
Oui, parce qu'effectivement, Pogacar, dans le col de Jouplan, a attaqué Vingegaard. Mais le Danois a comme sprinté, parce qu'il y avait un sprint intermédiaire avec la modification. Il a pris 3 secondes en haut du col de Jouplan. Et puis, dans le final, il y avait aussi des secondes de bonification. Et comme il arrivait deuxième, Pogacar, il a pris 2 secondes. Donc, si on fait le calcul, il y avait 9 secondes d'écart au général ce matin entre Vingegaard et Pogacar. Ce soir, il y en a une de plus en faveur de Vingegaard. Vingegaard, 10 secondes, mais ça reste effectivement, évidemment, un écart très, très faible. Richard Virenque, vous l'avez sans doute vu, à 500 mètres de l'arrivée au col de Jouplane, hein, qui est situé, cette arrivée, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée dans la descente à Morzine, eh bien, Pogacar a essayé de remettre une cartouche, et là, il y a une moto qui l'a gêné, clairement.
Oui, oui, ben, à 500 mètres, c'est clair que Pogacar voulait faire cette bonification au sommet. Et en fait, pour le prendre à son jeu, la dernière fois, quand il avait attaqué, il avait décroché de la roue Vingegaard, il avait profité d'une moto. Moi, ça ne s'était pas trop vu à la télé ou pas trop dit parce que les spécialistes ne l'ont pas vu. Mais moi, je l'avais très bien vu. Donc, des fois, on profite d'une moto un peu à une vingtaine de mètres pour attaquer et que la moto, elle accélère en même temps et elle vous aspire un peu. Et donc, ça vous permet de faire exploser l'adversaire. Le seul problème à ce moment-là, à 500 mètres du sommet, c'est que Pogacar, il a attaqué sur la moto. La moto, elle a accéléré et il y avait trop de public et il y avait une moto de la télé qui était là. Et ça a fait quoi ? Un bouchon. Donc, il a dû freiner, s'arrêter ou sinon il allait tomber. Donc, il s'est fait prendre à son propre jeu. C'est dommage que ces motos-là soient là à ce moment-là de la course, c'est-à-dire dans un sprint du classement de la montagne, en plus avec des bonifications. Je pense que la moto, elle n'a rien à faire là pendant les 300 derniers mètres ou les 400 derniers mètres. C'est clair que la photo, elle était sympa à prendre. En fait, on va la voir la photo, mais je ne trouve pas que la photo, elle mérite d'être prise à ce moment-là.
Ouais, parce que c'était effectivement, il y avait la moto de la télévision là, qui est là parce qu'elle elle filme, et puis à côté, il y avait cette moto photographe, donc ça a fait bouchon, comme vous l'avez très bien expliqué, Richard Virenque. Emmanuel Potiron, est-ce que c'est aussi pour ça que finalement, sitôt la ligne d'arrivée franchie, eh bien, Pogacar, quand la question lui a été posée sur cette moto, il n'en a pas fait toute une histoire, il a dit bon, bah, c'est la course.
Oui, pour rebondir à ce que disait Richard, tout simplement, on a vu Mauro Gianetti tout à l'heure au bus, il nous a dit on va pas en faire toute une histoire, c'est la course. Bon, c'est dommage, c'est malheureux, mais bon, tout n'allait pas se jouer là sur Tour de France, comme nous l'a dit Mauro tout à l'heure. Donc ça fait partie de la course. Oui, la moto était sans doute mal placée, mais il y avait un monde dans ce col de Jouplane, c'était impressionnant. Nous l'avons monté avec les copains et les amis du Dauphiné Libéré. C'était vraiment noir de monde. Et c'est vrai que l'espace, les coureurs pour qu'ils passent, il fallait vraiment qu'ils se frayent un chemin. Et les motos étaient trop près. Et comme a dit Mauro, on recommencera demain.
Mauro, c'est le manager de l'équipe UAE, l'équipe de Pogacar, bien sûr. Maintenant, si on revient sur cet Espagnol qui s'est imposé. Ça faisait 5 ans qu'un Espagnol n'avait pas gagné sur le Tour de France avant le début de cette édition. On a eu Peyo Bilbao. On a eu ensuite un autre Espagnol, un autre Basque, Izaguirre de l'équipe Cofidis. Et là, troisième Espagnol, Carlos Rodriguez. Alors attention, hein, parce que lui, je regardais son palmarès, il a 22 ans, il fait deuxième du Tour de l'Avenir en 2021. Il est champion d'Espagne l'année dernière. Il gagne une étape du Tour du Pays Basque. Il fait cinquième du Tour de Lombardie, septième du Tour d'Espagne, toujours l'année dernière. Cette année, top 10 sur le Critérium du Dauphiné, 14e étape du Tour de France. Emmanuel Potiron, c'est un sacré client, ce coureur d'Ineos Grenadier.
C'est un sacré client, c'est un sacré Espagnol bon coureur. Et en plus, à 90% l'année prochaine, il va rejoindre une équipe espagnole puisqu'il a quasiment signé chez Team Movistar. Donc il va quitter Ineos Grenadier. Alors vu qu'il est maintenant, il occupe la troisième place du général de ce Tour de France, est-ce qu'il la gardera ? Est-ce que Ineos Grenadier va tout faire pour garder cette perle qui est Carlos Rodriguez ? Il faudra étudier la question, je pense, du côté de chez Ineos Grenadier. Mais oui, il a 22 ans, il s'est déjà distingué et il montre que il y en a dans les cannes. Je ne sais pas ce qu'en pense Richard, mais il gagne à être connu. Il est très discret, mais il est très sympa. Il parle pas trop anglais, mais il s'améliore et il est très intéressant à suivre. Et je pense qu'il a je ne sais pas s'il ira chez Team Movistar ou s'il doit rester chez Ineos Grenadier. Qu'est-ce qu'en pense Richard d'ailleurs ? C'est est-ce qu'il doit rester chez Ineos Grenadier ? Je ne sais pas.
En tout cas, il est dans une des plus grandes équipes au monde. Donc, Ineos et Ineos sont à la recherche, on va dire, de grands talents comme lui aujourd'hui. Donc, moi, je serais à lui conseiller qu'il ne bouge pas de cette équipe-là. Et en fait, il a été très opportuniste, mais aussi, il a été aussi très talentueux. Parce que même s'il était à 40 secondes ou 50 secondes après la grosse attaque de Pogacar et de Vingegaard, c'était le troisième qui était là, présent, on va dire. Donc, il fallait être présent à ce moment-là. Certes, il a bénéficié, on va dire, du marquage des deux champions, mais aussi, quand il est revenu,
il a eu aussi l'audace d'attaquer la descente. Et la descente de Jouplan, pour la connaître, elle est très technique et il a distancé Pogacar dans la descente donc pour aller s'imposer. Donc je crois que ce coureur-là, on n'a pas fini d'en parler quelque part et il est dans l'équipe qu'il faut quelque part aussi.
Richard Virenc, Emmanuel Potier.
Ouais.
Bah, allez-y, ouais, vas-y,
non,
allez-y, Emmanuel.
Que ce cours... Non, ce coureur-là, la petite anecdote quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez de Nicolas Portal, c'était l'ancien directeur sportif de Ineos Grenadier et de la Sky. C'est lui qui avait fait venir Carlos Rodriguez chez Ineos Grenadier, anciennement de Team Sky, et qui avait découvert cette pépite. Et la preuve que maintenant, il s'en est allé, Nicolas Portal, mais je pense qu'il avait eu le nez. Et je pense que ça se confirme, voilà, tout simplement. C'est ça que je voulais rajouter.
Bah, s'il nous écoute de là-haut, hein, Nicolas Portal, ouais. Qui était vraiment un garçon sympathique, on lui fait un petit clin d'œil. Avant de vous laisser, Emmanuel Potiron, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette chute collective. 6 km de course, il y a eu une demi-heure de neutralisation. C'est très rare hein, que ça arrive comme ça sur le Tour de France. C'était dû à quoi, Richard Virenc, cette chute? Route humide, glissade, plus les freins à disque. Il suffit qu'on freine un peu fort avec le frein à disque et boum, le vélo tombe et ça fait effet domino dans un peloton.
Bah écoutez, l'étape était tout juste donnée et il est clair que la route était détrempée. Et forcément, les premiers kilomètres, vous savez, on est à la recherche des sensations, d'accord ? Et ça roulait très vite et c'est tombé, je pense, parce que c'était trop humide. Et voilà, les coureurs, certains n'étaient pas peut-être assez concentrés au départ, parce que c'est tombé au départ. La bonne chose, c'est que l'organisateur a stoppé la course à ce moment-là, a laissé que le peloton... mettre des pansements un peu partout et repartent comme ça. Ça, c'était une bonne chose. Bon, certes, ça, on a perdu une demi-heure sur l'horaire de course, mais c'était une bonne chose. Après, il y a eu une autre chute avec Romain Bardet et un autre coureur. Donc là, malheureusement, sur cette chute-là, Romain Bardet est resté au sol et rentré à la maison. Donc là, c'est pour nous, pour les coureurs du classement général, en tout cas pour les prétentions qu'on avait avec David Gaudu et Romain Bardet et Guillaume Martin, malheureusement, des trois, ben maintenant Bardet est sorti de la course.
Ouais, 7 abandons au total, mais il y a eu cette chute différente survenue dans la descente du col de Saxelles. C'était le premier col des 5 ascensions répertoriées aujourd'hui. Il est tombé, il souffre d'une commotion cérébrale, Romain Bardet, et ça rappelle, mon cher Emmanuel Potiron, le Tour 2020, lors de la 13e étape, il avait abandonné déjà, alors à l'époque il avait fini l'étape, mais déjà sur commotion cérébrale, Romain Bardet.
Oui, bah, de toute manière, Romain Bardet nous l'a dit hier à l'arrivée, c'est un chemin de croix, il était malade, il avait une bronchite et il n'était pas à 100% depuis le week-end dernier. Voilà, son tour s'arrête sur cette chute, sur cette commotion cérébrale, c'était pas son année. Après, bon, moi, s'il y a une image de jour que j'aimerais garder, on est allé recueillir à la fin de l'étape, il était dans le groupe Eto, c'est Adrien Petit avec l'arrière-train, la fesse droite ouverte, le tibia bandé. Il nous a raconté cette chute, c'était une vraie patinoire pour rebondir sur ce que disait Richard. Et qu'en fait, il a fini au courage. Il va voir s'il va se faire mettre des points au niveau du tibia. Le médecin du Tour lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il continue la course, mais il a vraiment continué. Il a terminé cette étape dans les temps, dans les délais, au courage et bah, sans faire de promo. Sa réaction est sur Cyclisme Actu, mon cher Axel. Voilà.
Bah, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à aller voir Cyclisme Actu, votre site internet. Merci beaucoup, Emmanuel Potiron. Vous êtes à Morzine, là. Merci de nous avoir répondu. Richard Virenc, bien sûr, vous restez avec nous. On va parler de cette étape de demain. Alors d'abord, le classement général. Jonas Vingegaard récupère le maillot à poids. Alors c'est toujours Nelson Poles, le Californien, qui va le porter, puisque Vingegaard ne va pas porter et le maillot jaune et le maillot à poids demain sur les routes du Tour. Vingegaard a donc 10 secondes d'avance sur Pogacar. Char au classement général. Bien plus loin, on trouve à la troisième place Rodriguez, l'Espagnol, vainqueur de cette étape qui a chippé la troisième place à Hindley, l'Australien. Le premier Français, c'est toujours David Gaudu, il est désormais dixième. Guillaume Martin, 12e. Thibaut Pinot, 14e. Et puis Romain Bardet, le malheureux, n'est plus là après cette commotion cérébrale. Hein. Martin et Gaudu qui ont encore perdu, tout comme d'ailleurs Thibaut Pinot, du temps aujourd'hui. Là, c'était une étape qui arrivait à Morzine, hein, vous connaissez bien Morzine, Richard Virenc, vous êtes imposé en 2000, l'étape Courchevel-Morzine. En 2003, c'était l'étape Lyon-Morzine. Demain, vous en pensez quoi de cette étape? Et d'ailleurs, vous allez faire les derniers kilomètres, enfin un peu plus que les derniers kilomètres de l'étape de demain, Richard.
Oui, exactement. Donc, je suis invité par l'organisation du Tour de France et on est une cinquantaine invités et on a la chance de, on va dire, d'être en avant-course 3 heures avant les champions et on va faire les 85 derniers kilomètres. Donc demain ça va être très compliqué pour moi, mais bon voilà, je suis motivé et voilà, donc c'est une belle organisation. En tout cas je suis content de retrouver les routes du Tour hein, après tant d'années et voilà, donc je suis ravi de faire partie de cette fête demain sur le Tour.
Avec donc un départ des DG pour une arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc, donc c'est une arrivée en hauteur, au sommet, col de première catégorie. Avant cela, il y aura eu 4 montées. Vous direz que c'est une... Alors 179 kilomètres, c'est une étape de montagne difficile parce qu'elle arrive en fin de deuxième semaine ou elle est tout simplement difficile, Richard ?
Alors, elle est difficile parce que, oui, elle arrive en deuxième semaine. Elle est difficile parce que vous avez vu l'étape d'aujourd'hui, à quelle vitesse ils l'ont faite. Et cette étape d'aujourd'hui, elle va laisser vraiment des traces, mais vraiment des traces. Donc, je pense que l'étape de demain, je ne pense pas que l'équipe Jumbo va jouer la même chose. Parce qu'aujourd'hui, elle a cadenassé la course. Elle a fait un rythme d'enfer et ça a été dur. Demain, l'étape, elle fait quand même 180 km. Il y a 5 ascensions et l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc, ça va être quand même très difficile le col d'arrivée. Je pense que vraiment, là, ceux qui veulent partir, aujourd'hui, on a vu, on n'en a pas parlé, mais Thibaut Pinot a vraiment essayé de partir dans l'échappée avec Julien Alaphilippe. Ils ont tenté, mais derrière, il y avait l'équipe du maillot jaune qui l'auront couru derrière. Demain, ça, c'est sûr, ils pourront partir dans l'échappée. Il y aura une grosse échappée avec une vingtaine de coureurs. Et le favori de ce Tour vont s'attaquer dans la dernière ascension. Et il y aura encore un duel avec les cadors de ce Tour.
Pour terminer ce Club Tour, Richard Virenque, on va accueillir le nouveau manager général de l'équipe belge Lotto, on l'avait un peu perdu de vue depuis un petit moment. Il était un petit peu en retrait, tout en étant quand même présent. C'est Stéphane Lowe. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors, je précise le nom complet de votre équipe, c'est Lotto. Alors, Lotto, c'est la loterie belge. Et puis, l'autre nom est moins connu, c'est Destiny, hein, c'est ça ? Enfin, Destiny, il faut prononcer.
Destiny, oui.
Ouais, et c'est de l'informatique, je crois.
Tout à fait.
Bon,
tout à
fait. Vous voici manager, vous qui avez créé il y a une quinzaine d'années l'équipe Besson Chaussures, qui est ensuite devenue Sor Sojasun, avec laquelle vous avez participé au Tour de France dans l'encadrement. Là, vous êtes manager donc, de cette équipe belge. Ça a été un peu une surprise, hein, en tout cas pour ceux qui ne sont pas toujours au fait de l'actu cycliste, de vous voir arriver en janvier à la tête de cette équipe. Comment ça s'est passé, Stéphane ?
Bah, j'ai été entre guillemets, c'est un recrutement un petit peu atypique, puisque dans le vélo, on a plutôt souvent affaire à des managers autotitrés par rapport au fait qu'ils ont pu décrocher un partenariat. Ça a été mon cas aussi, comme vous le disiez, en 2009. Et là, on est passé par, c'est une boîte de recrutement, des chasseurs de tête qui ont sélectionné des profils et on est rentré dans un processus de sélection qui était assez atypique et plaisant à la fois, parce que ça revêtait pas mal d'aspects, pas mal de cases à cocher en fait, et bon, j'étais l'heureux élu, on va dire.
Voilà, et donc c'est un manager d'une équipe étrangère, c'est pas si souvent que ça arrive dans le cyclisme sur les routes du Tour de France. Stéphane Delot, votre équipe c'est 8 coureurs, il y en a 6, Guarnieri, l'italien ancien de la Groupama FDJ a abandonné, il y a eu aussi Caleb Ewan, l'australien sur lequel vous comptiez beaucoup d'ailleurs, et après je ferai réagir Richard Virenque, vous avez je crois moyennement apprécié qu'il abandonne et qu'il n'essaye pas d'aller un peu plus loin sur ce Tour de France, Caleb Ewan.
Ouais, disons que déjà Jacopo Guarnieri est tombé à Nogaro, donc il s'est fracturé la clavicule malheureusement. Derrière cela, c'est vrai que Caleb Ewan est un sprinter assez exclusif qui souhaitait avoir une équipe totalement dédiée à son service, ce que j'ai refusé dès le départ, puisque justement pour éviter ce genre de situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec une monostratégie et que si Pépin y arrivait, puisque les sprints restent des exercices périlleux, de ne pas se retrouver orphelin, et il aurait souhaité voir des Maxime Van Gils, Victor Campenaerts, rouler tout de suite en tête du peloton pour lui donner confiance. Je l'ai refusé puisque j'avais d'autres attentes pour ces coureurs-là, justement par rapport à ce que je venais d'expliquer. Et puis, on va dire qu'il a fait sa forte tête et s'est laissé... s'est laissé aller pour poser pied à terre hier. Donc, je pense qu'à un moment donné, les coureurs ont des droits. On les respecte, on met beaucoup d'énergie, que ce soit par rapport aux partenaires, par rapport à l'équipe, par rapport au staff et même ses équipiers. Et j'ai trouvé ça relativement petit dans le sens où il n'y a pas vraiment de reconnaissance du ventre. Et ses devoirs n'ont pas été, à mon sens, très, très, très bien respectés. Donc, j'estime qu'à un moment donné, dans quelle entreprise... on permettrait à un employé d'agir de la sorte. Je ne pense pas que ça puisse exister. Donc, on a des comptes à rendre et moi, j'en ai à mes partenaires. Donc, à un moment donné, je dois dire aussi ce que je pense.
Stéphane Lowe, je rappelle juste que parmi les sprinteurs qui ont abandonné, il y a Cavendish, blessure. Jacobsen, lui aussi, il souffrait. Et puis donc, Caleb Ewan, choix personnel que vous appréciez moyennement ce choix, on l'a bien compris. Richard Virenque a une question pour vous, Stéphane Lowe.
Oui, salut Stéphane, content de te parler. Tu t'es mis ouais. Au flamand, c'était pour ça qu'ils t'ont sélectionné, que tu t'es mis à parler le flamand.
Tu sais, ça fait 10 ans que je suis marié à une flamande.
C'est pour ça, d'où la sélection. Non, donc, je commence à tout comprendre, d'accord.
Ah d'accord. Ouais, ça a été ma première réflexion quand on m'a demandé. Je dis non, mais je suis pas belge. Et on m'a dit non, ça avait rien à voir. Fallait parler l'anglais couramment, ce qui était mon cas, et français minimum. Bien sûr que le flamand est une langue assez répandue chez nous, mais je le comprends, je le parle moyennement, je fais trop de fautes, mais je le comprends. Donc, mais je vais faire des gros efforts là, parce que la presse flamande est assez attachée à cela, donc je le travaille.
Il te reste des hommes assez vaillants encore après l'étape d'aujourd'hui pour se lancer dans les échappées ou non? Vous allez vraiment attendre, on va dire, après Courchevel, on va dire dans les derniers jours du Tour de France pour essayer de faire quelque chose? Parce qu'une étape comme demain, tu le sens très bien, l'échappée va aller loin. Voilà, donc c'était juste pour savoir un peu les coureurs que tu avais, qui te restaient, s'ils sont encore en état.
Disons que tout se passait juste très très bien jusqu'à hier, puisque Maxime Van Gils a pris la deuxième place en haut du Colombier, du Grand Colombier. Malheureusement, il a été très touché sur la chute qu'il y a eu au départ aujourd'hui. J'avais deux coureurs dedans, donc Maxime et puis Frédéric Frison. Donc on va essayer de panser les plaies. Je pense qu'il va falloir s'accorder quelques jours un petit peu de remise à niveau et de récupération à ce niveau-là, parce qu'une chute sur le tour n'est jamais anodine, hein, on n'a pas le temps de récupérer, tu le sais bien. Donc c'est dommage parce que Maxime est vraiment un talent, il n'a que 23 ans, et ce qu'il a prouvé hier, battu par un grand Kwiatkowski, coureur d'expérience, et on ne fait pas ça, son palmarès. C'était un peu le plan initial. Maintenant, je pense que une journée comme aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, c'était journée rouleau-compresseur. Mais c'est vrai que demain, ça aurait été bien de le voir aux avant-postes. Mais je pense qu'il va falloir être patient un petit peu.
Stéphane Lowe de la formation belge Lotto Destiny, merci d'avoir été avec nous ce soir. On entendait, vous étiez en voiture en train de rejoindre votre hôtel. Merci Stéphane. Richard Véran, qu'on se retrouve demain, même heure. Et puis vous nous raconterez comment se sont passés les 80 derniers kilomètres de l'étape que vous allez faire sur un vélo.
Ouais, merci, ça va être dur. Bonne soirée à tous, au revoir.